Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Il n'y avait aucun espoir.
Les gens mouraient comme des mouches.
Pourquoi un Dieu d'amour permet-il un tel enfer sur terre ?
Jusqu'à ce jour, je ne comprends pas. L'une des périodes les plus sombres de l'histoire a commencé en 1938, lorsqu'Hitler a cherché comment exterminer le peuple juif de façon systématique. Lorsque tout cela fut fini, un tiers de la population juive dans le monde avait été éliminée, assassinée, anéantie. Cependant, quelques juifs ont pu y échapper en traversant les mers. D'autres, moins heureux, ont survécu en Europe en se cachant dans des caves ou des greniers. D'autres encore ont survécu dans des camps de concentration jusqu'à la fin de la guerre. Nous nous posons cette question. Comment est-il possible que ces hommes et ces femmes, ces survivants, puissent continuer à vivre après tout ce qu'ils ont enduré? Est-ce seulement possible? Comment pourront-ils encore chanter, sourire, danser et rire? Vous allez entendre le récit de plusieurs personnes dont la vie a été dévastée par la Shoah avant d'être restaurée et enfin transformée. Ce sont des histoires de survie, d'espérance et de foi. Une foi qui provient cependant de la source la plus inattendue.
La synagogue se trouvait dans la maison de mon grand-père. Ainsi, oui, nous étions très actifs. Ma grand-mère était réputée pour être la personne la plus accueillante de la ville. S'il y avait une famille dont la fille voulait se marier et qu'elle n'avait pas assez d'argent, elle allait voir ma grand-mère, qui s'occupait de tout pour que le mariage ait lieu.
Mon père était barbier et coiffeur. Il avait son propre salon de coiffure à Budapest. Ma mère était à la maison et elle faisait un peu de couture. D'après mes souvenirs, nous étions très heureux à la maison jusqu'au début de la guerre. Et alors les choses ont commencé à changer.
Toutes les deux semaines, il y avait une grande foire aux chevaux. Beaucoup de juifs étaient marchands de chevaux. Ils venaient à la maison. Puisque nous mangions kasher, ils mangeaient avec nous, ils passaient la nuit chez nous, et le matin, ils se rendaient au marché.
Là où j'ai grandi, à Prague, nous n'avons pas souffert de l'antisémitisme. Au contraire, les gens avaient une grande estime pour les juifs. Il est vrai que c'était en Europe centrale et non en Europe de l'Est.
Le maître commençait par lire systématiquement le Sterma, le journal allemand de propagande, où l'on décriait les juifs. Les enfants avaient donc une image complètement déformée des juifs. Et lorsque j'arrivais à l'école, une heure plus tard, tous les enfants se mettaient autour de moi et me frappait.
J'ai grandi à Berlin, mais j'ai très peu de souvenirs de cette époque-là. Je sais juste que j'allais à l'école et que j'avais 10 ans quand Hitler est arrivé au pouvoir. Je savais que ce n'était pas une bonne chose. Les enfants commençaient à se comporter différemment à l'école. Ma meilleure amie ne pouvait plus continuer à être mon amie et on n'avait même plus le droit de se voir.
Un jour, mon père est rentré à la maison et il y avait une croix gammée sur un drapeau suspendu à la fenêtre. Il n'y en avait qu'un seul. Mon père est entré, il a dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mon frère a répondu « C'est moi qui ai mis le drapeau. » « Pourquoi ?» a demandé mon père. Mon frère a répondu « Le maître nous a dit qu'Hitler est un homme bon et qu'il fera en Allemagne ce que personne d'autre n'a jamais réussi à faire jusqu'alors. Puis il nous a donné les drapeaux. »
Vous savez ce que c'est qu'un bouc émissaire? Quelqu'un comme un juif. Vous avez déjà vu les caricatures que l'on dessinait autrefois. Des juifs avec un gros nez, prêts à tout pour tromper les autres, pour accaparer toutes les richesses. Et bien sûr, les juifs étaient la cause de tous les problèmes. Les juifs font ceci, les juifs font cela. Si on était pauvre, par exemple, on disait, c'est la faute des juifs.
Elle avait vraiment une horrible expression de mépris sur son visage. Et cette maîtresse a dit, vous les juifs, sortez de ma salle de classe et ne revenez plus. Lorsque nous sommes sortis, les Polonais, les adultes comme les enfants, nous ont accueillis sous un déluge de pierres. Et ils nous lançaient des insultes qu'on réservait spécialement aux Juifs. Bien sûr, je me suis retrouvée couverte de sang, et mes camarades juifs aussi.
Je me suis retrouvée en route avec ma mère pour la fameuse marche vers la mort, vers Bergen-Belsen. J'ai le vague souvenir que je n'arrivais plus à marcher. Ma mère m'a dit alors, « Tu dois marcher, sinon on va te tuer. » À droite et à gauche, des soldats tiraient sur tous ceux qui flanchaient, ceux qui ne pouvaient plus marcher.
Le 1er septembre 1939, les nazis sont entrés dans notre ville et la vie a basculé du jour à la nuit. Vous savez bien ce qui est arrivé aux Juifs. Beaucoup se sont enfuis. Ceux qui sont restés, les plus âgés, les femmes et bien d'autres, ont été envoyés dans les camps de concentration où on les a exterminés.
Avant qu'on vienne chercher mes parents, nous vivions près d'un parc. J'allais souvent me promener dans ce parc avec mon père et nous portions bien sûr tous les deux l'étoile jaune. Les Juifs n'avaient pas le droit de s'asseoir, c'était écrit sur tous les bancs. Mais un jour, mon père me dit « Viens t'asseoir ». Je lui ai répondu « Papa, nous n'avons pas le droit ». Il m'a ordonné de m'asseoir. Alors nous nous sommes assis sur le banc et bien entendu, deux soldats sont arrivés, des SS je suppose. Ils sont venus vers nous et lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils nous ont dit en allemand « Levez-vous, vous savez bien que vous n'avez pas le droit de vous asseoir ici. Lève-toi, sale juif. » Mon père s'est levé et il a dit « Comment osez-vous me parler comme ça ?» Il a sorti de sa poche une médaille qu'il avait reçue pendant la guerre et il a dit « J'ai combattu pendant la guerre de 14. Comment osez-vous me parler de cette façon ?»
Enfin, en 1938, nous avons vécu la Kristallnacht, la nuit de cristal. Cette nuit-là, toutes les synagogues ont été détruites et toutes les fenêtres de notre maison ont été brisées. Nous avons dû nous mettre en rang dans la cour et mon père a été battu.
J'ai passé 3 ans et demi dans les camps de concentration les plus épouvantables. D'abord Theresienstadt, dans le ghetto, ensuite Auschwitz, et puis aussi à Hambourg pendant quelques semaines, avant d'être libéré de Bergen-Belsen.
Cette fois-ci, On nous a pris et on nous a renvoyés dans le ghetto. Vous savez, nous pensions que c'était peut-être le meilleur endroit, puisque nous avions encore de la famille à ce moment-là.
La vie dans les camps. Comment peut-on décrire l'enfer? Eh bien, nous travaillions avant que le jour se lève, jusqu'à la nuit tombée. D'abord, on nous comptait. On devait tous se mettre en ligne sur 5 rangs. On marchait jusqu'à l'usine. On travaillait toute la journée et on revenait aux baraques lorsqu'il faisait nuit. Pour manger, nous avions une tranche de pain et une tasse de café, ou plutôt une sorte de chicorée, et parfois un bol de soupe.
Nous devions nous tenir debout pour être comptés chaque jour. Parfois, ça prenait toute la journée. Il y avait des enfants dans notre camp. Et à partir de 3 ans, ils devaient rester eux aussi debout. Demander à un enfant de 3 ans de rester debout sans parler ni s'accroupir, c'est impossible. Et chaque fois qu'il surprenait un enfant en train de s'asseoir ou de parler, nous devions rester 2 heures de plus. C'était notre punition. Souvent, ça durait toute la journée.
La plus grande partie de la famille de mon père est morte dans le camp de concentration. Et je ne comprends toujours pas pourquoi. Je suis sûr que Dieu avait ses raisons, mais je ne les connais pas. Peut-être qu'un jour, je lui poserai la question.
Quand vous sortez d'un camp de concentration, vous vous sentez terriblement coupable. Vous avez vu mourir vos amis et des milliers d'autres personnes et vous pensez, pourquoi suis-je encore en vie? Cela n'a aucun sens. Pourquoi suis-je en vie?
Je ne comprenais pas pourquoi j'avais survécu. Je n'étais pas particulièrement rusé ni fort. Mais aujourd'hui, je crois sincèrement que Dieu a permis que je survive, afin de m'appeler à son service. C'est tout. C'est une certitude.
On m'a diagnostiqué une fièvre typhoïde, puis une encéphalite, et enfin une faiblesse cardiaque. Bien sûr, je traîne toujours cette faiblesse au cœur, mais par miracle, il y avait quelqu'un là-haut, quelqu'un qui veillait sur moi. Comment ai-je survécu? J'ai du mal à le croire. Même les médecins ne l'auraient jamais cru.
Je me demandais sans cesse pourquoi Dieu m'avait épargné. Je ne comprenais pas, car j'étais si souvent passé à 2 doigts de la mort.
Je ne suis plus la même. Je suis une survivante. Je détestais ce mot. Aujourd'hui encore, je suis mal à l'aise quand je l'entends. Il n'y avait pourtant rien de particulier, mais c'était comme si j'avais fait quelque chose de mal. Et pour cette raison, je me sentais coupable. J'avais survécu, tandis que 6 millions de personnes étaient mortes, des hommes et des femmes plus âgés ou plus instruits que moi. Je n'avais rien fait de spécial. Je n'aurais pas dû survivre. Je n'aurais pas dû. La plupart des rescapés éprouvent le même sentiment. C'est pour ça que nous n'en parlons jamais.
J'étais déterminée et pleine d'espoir. Je voulais survivre. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils n'avaient pas cette volonté. Ils n'avaient absolument aucun espoir.
Dieu devait bien avoir ses raisons pour m'épargner pendant tout ce temps. Dans les pires circonstances, mais aussi pendant les périodes plus heureuses, car j'ai eu aussi de bons moments dans ma vie.
Lorsque je posais cette question à mes frères juifs, où allons-nous lorsque nous mourrons? Tout ce qu'ils pouvaient répondre, c'était que nous allons trois pieds sous terre. Pour eux, il n'y avait aucun espoir au-delà de cette vie.
De nombreux rescapés de la Shoah ont demandé à Dieu « Pourquoi ? Où étais-tu, Dieu Tout-Puissant, quand toute cette horreur nous est tombée dessus ? Comment as-tu permis une telle souffrance ?» Certains survivants ont totalement perdu la foi. D'autres, au contraire, l'ont retrouvée, comme Ross Price.
Ma mère et le reste de la famille ont été exterminés à Treblinka. J'ai été envoyée dans trois camps en Pologne et dans trois camps en Allemagne. Nous étions tout le temps battus. Tout cela, c'est la faute de Jésus. Chaque fois qu'on nous frappait, les gardes nous disaient « C'est Jésus qui nous a dit de vous frapper. Jésus vous hait. » Toutes les atrocités que les Juifs ont subies au cours des deux derniers millénaires ont été faites au nom de Jésus, y compris dans les camps de concentration. Et je dirais même, surtout dans les camps. On nous disait tout le temps combien Jésus nous haïssait, car nous l'avions tué. Chaque matin, les Allemands disaient, « Quel numéro allons-nous tirer ?» Un jour, c'était le numéro 4, un autre jour, le 5. On ne savait jamais sur quel numéro il fallait se mettre. Qui allait-il prendre? Et lorsqu'il vous tirait au sort, vous passiez d'une ligne à une autre, mais malheureusement, dans l'autre ligne, on vous mettait des chaînes autour du cou, autour de la taille et des chevilles, puis on vous enchaînait aux personnes qui se trouvaient devant et derrière. Vous ne pouviez plus vous échapper. Il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas de savon pour se laver, on travaillait avec de la graisse. Je travaillais sur les machines à munitions et je devais plonger mes mains dans un seau rempli de graisse afin de graisser la machine, car il fallait constamment graisser les machines et il n'y avait pas de savon. On ne peut pas enlever la graisse avec de la neige, ni avec de l'eau de pluie, ni même, pardonnez-moi l'expression, avec de l'urine. Et pourtant, nous avons très souvent utilisé de l'urine pour nous laver. J'ai été élevée dans la pensée que Dieu passe avant tout. Dieu le matin, Dieu le midi et Dieu le soir. Dieu m'aime, je suis son préféré, son élu, Dieu, Dieu, Dieu. Mais un jour, j'ai regardé autour de moi, j'ai regardé l'endroit où j'étais, en 1941 ou 42, et je me suis dit, Dieu n'existe pas, ma mère a menti. Qu'est-ce que nous avons pu ressentir au moment où nous sommes sortis des camps? Tout d'abord, on n'y croyait pas. Lorsque les soldats américains sont arrivés aux endroits où nous étions détenus, aucun d'entre nous n'y croyait. On se serait donné des claques ou pincés pour être sûr qu'on ne rêvait pas. Puis quelqu'un a eu l'idée de se venger et on n'a pas eu besoin de nous le répéter. Je savais ce que je voulais faire. Je voulais tuer Jésus. Et où habite-t-il Jésus? Dans l'église. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cette église? On va la brûler. Et si vous brûlez l'église, Jésus ne pourra plus y vivre. Il sera mort. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avions tant de haine. Quand nous sommes revenus, nous avons retrouvé les autres. Puis j'ai pris ma sœur par la main et je lui ai dit, « Maintenant, il est temps de rentrer à la maison. » La guerre était finie et pendant un temps, j'ai vécu en Allemagne. Beaucoup de choses se sont passées. Je me suis mise à voyager pour rechercher ma famille. Au bout d'un certain temps, ma sœur s'est mariée et elle est partie en Israël. Je comptais la suivre, mais je me suis retrouvée en Amérique par un concours de circonstances. J'ai vécu alors à Philadelphie. Peu après, j'ai rencontré mon mari. Nous nous sommes mariés et j'ai eu la joie d'avoir des enfants. C'était une bénédiction. Et tant de choses se sont passées ensuite. Un jour, ma fille aînée est rentrée à la maison en disant « Maman, maman, je crois en Jésus-Christ, c'est le Messie des Juifs !» Je ne comprenais pas. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ce Jésus qui avait tué ma famille, qui m'avait jeté dans un camp de concentration où les nazis faisaient leur expérience, où ils frappaient et tuaient les gens. Comment peux-tu croire ça? Comment peux-tu croire en ce Dieu? J'ai déjà assez de mal à croire en mon propre Dieu. Je n'ai pas besoin d'un autre Dieu. J'ai mis ma fille à la porte parce qu'elle croyait en Jésus. Puis j'ai envoyé mon mari dans cette maison où ils se réunissaient. Mais à son tour, il a cru en Jésus. Il ne voulait plus m'accompagner à la synagogue où j'avais pourtant les meilleures places. Il est devenu croyant en Jésus. Un jour, il est rentré à la maison et il m'a lu un passage du livre des Proverbes au chapitre 31. Ma plus jeune fille allait à une école privée juive. Elle est devenue croyante en Jésus. Mes garçons, ils ne voulaient plus parler de ces choses-là avec moi ou avec leur père. Ils disaient, on se fiche bien de tout ça, laissez-nous tranquilles. Avant, notre famille était en paix. Jésus est arrivé et maintenant, c'est la guerre. Je me suis dit, je vais leur donner une leçon et je vais aller trouver ce meurtrier, ce Jésus. Je me suis alors enfermée au sous-sol. J'ai ouvert ma Bible. Je savais bien que dans ma Bible, celle que le rabbin m'avait donnée, on ne parlait pas de Jésus. Alors je l'ai mise de côté, j'ai pris la Bible de ma fille, puis j'ai commencé à la lire et la relire, j'ai recommencé une nouvelle fois, car je savais que j'étais passée à côté de quelque chose. Je suis restée ainsi 4 ou 5 jours dans ce sous-sol. Je ne faisais ni ménage, ni cuisine, personne n'était autorisé à m'approcher, j'étais un vrai tyran. J'étais déjà un peu du genre tyran, mais à ce moment-là, je le suis devenu encore davantage. Après avoir lu et relu la Bible pendant de longues journées, c'est tout ce que j'ai fait. Je me suis même réfugiée un temps dans la salle de bain pour lire. Et après ça, je ne trouvais plus d'excuses. J'avais bien compris qu'il était l'agneau et non le lion. J'avais compris qu'il ne m'avait ni tué, ni jeté dans un camp, qu'il n'avait pas massacré ma famille, mais qu'il était mort pour moi. Vous vous rendez compte? Jésus est mort pour moi. Il m'a tant aimé, au point qu'il a donné sa vie pour moi. Je ne me suis pas convertie. Je suis juive. J'ai trouvé le Dieu d'Israël. Et pour sa gloire, je veux le servir.
Quand Rose a lu le Nouveau Testament, elle a découvert les paroles de Jean qui appelait Jésus l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Rose avait compris que Jésus était l'agneau de Pessah, la Pâque juive. Beaucoup de survivants étaient encore des enfants au moment du génocide nazi. Ils se souviennent d'avoir assisté, totalement impuissants, à la déportation de leur famille. Ils se demandaient chaque jour s'ils les reverraient. Bob Kertész a vécu cette douloureuse expérience.
Mon père fut incorporé dans l'armée hongroise. Et même si j'étais encore un enfant à cette époque, je me souviens de moments heureux. Quand il rentrait en permission, et moi j'arrangeais son uniforme afin qu'il ait une belle allure. Je n'ai jamais pensé que des événements aussi sombres allaient se produire. Mais alors, je suppose que mon père est allé au front russe avec l'armée hongroise. Et lorsque la Hongrie a décidé que les Juifs ne pouvaient plus rester dans l'armée hongroise, ils les ont traités presque comme des esclaves. Ils devaient creuser des tranchées pour les troupes sur le front et ils faisaient tout le sale boulot. Ma mère nous a mis, mon frère et moi, dans une sorte de foyer sous la protection de la Suisse. Là, nous étions à l'abri. On ne pouvait pas nous toucher. Ma mère est venue nous rendre visite pendant un temps, Mais ensuite, elle a arrêté ses visites. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé. Mais elle n'est pas revenue. Nous sommes restés dans ce foyer d'accueil. Quand je dis foyer, je parle en fait d'un grand appartement. Une immense pièce où 50 enfants dormaient, pour ainsi dire, les uns sur les autres. Parce que tous les parents essayaient de sauver leur enfant afin qu'il n'aille pas, je le sais maintenant, dans un camp de concentration. J'ai découvert plus tard, bien sûr, que ma mère avait été envoyée dans un camp de concentration à Mauthausen. Bien entendu, personne ne savait ce qui lui était arrivé. Et on n'avait bien sûr aucune nouvelle de mon père. Lorsque le ghetto fut construit, il n'y avait pas encore de mur. Il fallait qu'il fasse sortir tous les non-juifs du quartier. Ils ont alors mis en place des points de contrôle. Mon frère et moi, nous avons décidé, ou plutôt, moi, j'ai décidé que je n'étais pas fait pour vivre dans ce ghetto. Comme je l'ai dit, j'étais un gamin. Un jour, j'ai pris mon frère par la main, et au moment où tous les non-juifs sortaient du ghetto, nous nous sommes joints à une famille avec deux enfants, et nous avons enlevé notre étoile jaune. Nous avons marché avec cette famille et ils ont eu la gentillesse de ne pas nous dénoncer. J'ai une tante qui est toujours vivante, je crois, et qui n'était pas juive. Elle avait épousé l'un de mes oncles et nous sommes allés chez elle. Bien sûr, elle avait peur qu'on ne découvre qu'elle nous protégeait. Elle nous a envoyés chez sa famille, qui vivait à la campagne. Mon frère est parti dans une direction et moi dans une autre. J'ai vécu alors pendant plusieurs mois chez cette famille, jusqu'à ce que la situation devienne vraiment risquée pour eux. Alors nous sommes revenus au ghetto. À cette époque, ma grand-mère était déjà morte. Dans le ghetto, nous partagions le même lit. Quand elle est morte, nous dormions dans son lit avec mon frère. Il me semble que j'ai prié à ce moment-là. En tout cas, Dieu a répondu à mes prières. Mes deux parents ont survécu et sont rentrés à la maison. C'était un miracle. Ils sont rentrés environ 6 mois après la fin de la guerre. Je suis parti avec ma mère et mon frère aux États-Unis en 1948. 6 à 8 mois plus tard, mon père nous a rejoints. Nous étions enfin de nouveau ensemble.
Bob, reconnaissant envers Dieu d'avoir sauvé sa famille, ne s'est jamais détourné de Dieu. Des années plus tard, placé par un ami chrétien devant le choix de reconnaître en Jésus son Messie, il livra un combat contre lui-même.
Mon ami Gary Jérôme m'a relancé pendant plusieurs années. Nous avons beaucoup discuté. Et je disais toujours, pourquoi devrais-je croire en Jésus? J'ai déjà Dieu. Nous n'avons pas cherché à nous convaincre réciproquement en avançant des arguments. Mais nous avons poursuivi nos discussions. Et je disais, pourquoi devrais-je changer? Pourquoi devrais-je devenir quelqu'un d'autre? J'ai mis du temps à comprendre que je ne perdrai pas mon identité juive, mais au contraire, que j'ajouterai à cela que Jésus est mon sauveur. Je suis toujours juif, à l'intérieur. Je ne changerai pas. Je le serai jusqu'à la fin de mes jours. C'est seulement après avoir étudié la Bible que j'ai réalisé qu'il s'était sûrement passé quelque chose après l'Ancien Testament. Quelque chose. Il y a tant de textes dans l'Ancien Testament qui prouvent que le Messie devait venir et que ce Messie était même déjà vivant. Je ne pourrais pas décrire comment j'en suis venu soudain à croire que Jésus est le Messie. C'est la vérité. C'est tout ce que je peux dire.
Bob a vécu la souffrance de la séparation dans le ghetto, mais il connaît désormais son Messie, Yeshua, Jésus, et il sait que rien ne pourra le séparer de l'amour de Dieu. Lorsque nous entendons le récit des rescapés de la Shoah, nous sommes étonnés de ce qu'ils aient eu la force de continuer à vivre. Sans avoir oublié leur souffrance, certains ont trouvé la guérison et le réconfort en Dieu. Bien des années après le génocide, Marion Parkhurst a reçu cette consolation.
Nous vivions à Amsterdam, dans un petit appartement. Nous avons d'abord subi les bombardements. Ce fut une expérience terrifiante. Chaque nuit, nous devions nous réfugier dans les caves. Les bombes explosaient, c'était effrayant. Nous étions capables de deviner quel type d'avion nous bombardait. Je pouvais faire la différence entre les avions allemands, les avions anglais ou américains. Je les identifiais chaque fois. Enfin, peu importe. Un jour, nous avons été arrêtés. Voilà ce qui s'est passé. Ils nous ont d'abord jetés en prison, en Hollande. Cette prison n'était pas si mal comparée au camp de concentration. Puis ils nous ont envoyés à Westerbork, un camp de transit, et je suis restée là. Nous y sommes restés environ 2 ou 3 mois. Ils nous ont ensuite entassés dans des wagons à bestiaux, hommes, femmes et enfants. C'était épouvantable. Il était très difficile de trouver de quoi se nourrir. Ça sentait mauvais, les gens étaient malades, c'était effroyable. Et puis le train s'est arrêté et nous avons vu des SS avec de grands chiens bergers. Ils nous ont dit alors que nous étions à Bergen-Belsen. C'est là que nous avions été envoyés et ce fut une très mauvaise expérience. Je n'aime pas du tout parler de ces choses. Lorsque j'ai été prise, j'étais enceinte de 3 mois. Dans ces circonstances, c'était terrible. Je suis surprise qu'on ne m'ait pas envoyée à Auschwitz, parce que je pense que toutes les femmes enceintes étaient envoyées à Auschwitz. Mais je me gardais bien de montrer que j'étais enceinte. 3 mois, ça ne se voit pas trop. Mais bien sûr, j'ai fini par avoir ce bébé. Il y avait un docteur dans ce camp, un médecin hollandais qui était prisonnier. Il m'a aidée, mais le bébé était malade, bien sûr, et il est mort au bout de quelques jours. Après avoir eu mon bébé, je suis restée longtemps très faible. Un jour, il y a eu une grande confusion dans le camp. Et nous avons entendu dire que Mengele, le fameux docteur d'Auschwitz, visitait notre camp. Il est venu dans nos baraques. Le responsable du camp lui a montré tous les gens couchés dans leur lit. Puis il est venu vers moi et il m'a dit de me lever. Je me suis levée. Il a dit alors à Mengele, « Cette femme a eu un bébé ici, mais il est mort. » Mengele a répondu, « C'est bien. » Je lui aurais donné une claque. Je l'ai regardé, j'aurais voulu lui donner une bonne claque. Il a ajouté alors, « Eh bien, vous êtes en vie, n'est-ce pas ?» Je lui ai répondu oui. C'était tout. Et j'ai pensé en moi-même, qu'est-ce qui peut motiver cet homme? Mais le jour suivant, quelque chose de plus étonnant encore s'est produit. Ce jour-là, Mengele est de nouveau venu dans notre baraque. Il s'est approché du lit où j'étais assise. Puis il a déposé quelque chose sur mon lit. Et m'a dit de prendre ces choses, que ça m'aiderait à survivre. Je n'en croyais pas mes oreilles. Il est sorti et j'ai alors regardé ce qu'il avait déposé. C'était un gros flacon de vitamines. Il m'avait donné des vitamines. Alors j'ai commencé à penser que malgré tout, il pouvait avoir encore un vague sentiment d'humanité, même s'il était bien connu pour pratiquer des expériences horribles sur toutes les femmes, sur tous les gens. En tout cas, je n'ai jamais oublié ça. Dans le camp, il y avait différentes sections. Je voyais chaque jour, je voyais de grandes charrettes tirées par des chevaux, chargées de cadavres, des corps nus. Ils les emmenaient quelque part, je ne sais pas où, chaque jour. C'était une situation sans espoir. Nous étions tout le temps affamés. Et ceux qui s'aventuraient vers les poubelles pour y prendre des choses étaient sévèrement punis. Imaginez les souffrances. Je ne sais vraiment pas comment j'ai pu les supporter. Un jour, en avril, un matin, quelque chose était en train de se passer. Nous n'avions aucune nouvelle, bien sûr, nous ne savions rien. Mais on sentait qu'il se passait quelque chose dans le camp. Les SS couraient en tous sens, ils criaient, ils s'agitaient. Il se passait vraiment quelque chose. Ils ont allumé le haut-parleur et ils ont dit « Dans une demi-heure, chacun devra prendre ses affaires et se préparer à marcher. Nous allons évacuer le camp. » Ils nous ont donné un peu de pain. À ce moment-là, mon mari était sérieusement malade. Il avait la fièvre et c'était à peine s'il pouvait marcher. Nous avons commencé à marcher sur la route. Nous devions parcourir environ 3 ou 4 kilomètres. Mon mari m'a dit alors, « Je n'en peux plus. » Mais j'ai vu des gens le long des routes, des personnes âgées qui disaient, « Sale juif, levez-vous !» Et s'ils ne pouvaient pas se lever, ils les tuaient sur place. Alors j'ai dit à Walter, « Écoute, il faut marcher, sinon ils vont te tuer. » Je ne sais pas comment j'en ai eu la force, mais je l'ai littéralement porté, vous savez.
Marion et Walter furent jetés dans un train, mais celui-ci, quelques jours plus tard, fut bombardé. Contre toute attente, ils survécurent et ils commencèrent alors une nouvelle vie. Après la naissance de leur fille, Karen, ils émigrèrent aux États-Unis où des juifs messianiques leur parlèrent de Jésus.
Nous avons rencontré Paul et Elisabeth. C'étaient de bons amis. Nous avons commencé à parler de la foi et j'ai dit, « Paul, ne perds pas ton temps avec moi, s'il te plaît. Cela n'a aucun sens pour moi, d'accord ?» Mais un jour, Karen devait avoir environ 3 ou 4 ans, il m'a dit, « Écoute bien, si tu veux jouir de la vie et te faire plaisir, très bien. Mais ta fille, est-ce que nous pourrions l'emmener à l'église ? Je pourrais passer la prendre, moi ou d'autres personnes ?» Je lui ai répondu, « Bien sûr, pourquoi pas ?» Karen a donc commencé à aller à l'église et très rapidement, elle est revenue à la maison avec des textes bibliques ou des histoires tirées de la Bible et elle voulait que je lui lise ces histoires. J'ai lu ces histoires sur Jésus et sur d'autres personnages. Mais un passage de l'évangile de Jean, le verset 16 du chapitre 3, m'est revenu à la mémoire, ainsi que d'autres passages. J'étais de plus en plus curieuse et j'ai appelé Paul pour lui dire « C'est quoi tous ces trucs que Karen me ramène à la maison? Où les as-tu trouvés ?» Il m'a répondu que c'était dans la Bible. Mais je lui ai dit que je n'avais pas de Bible et il m'a proposé de m'en donner une. J'ai aussitôt accepté. Il m'a donc donné une Bible et j'ai commencé à l'étudier avec lui. De fil en aiguille, je lui ai dit « Tu sais, il y a comme un mur que je ne peux pas franchir. » Mais quand j'ai lu le chapitre 53 du prophète Isaïe, ça m'a été droit au cœur. J'ai continué de lire et d'étudier la Bible, et par bonheur, j'ai pu dire un jour, « Oui, je suis convaincu au sujet du Messie. »
Marion a lu les textes d'Isaïe. C'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Elle ne pouvait nier que le prophète parlait de Yeshua, de Jésus. Quelques juifs ont survécu aux atrocités nazies en fuyant dans d'autres pays. Beaucoup furent arrêtés et jetés dans des prisons où ils souffrirent de longs mois. Eliezer Urbach fut l'un d'entre eux.
Au début de la Seconde Guerre mondiale, j'avais 17 ans. La vie était plutôt agréable. Mais le 1er septembre 1939, les nazis sont entrés dans notre ville et je me suis enfui avec 5 amis polonais. Nous sommes allés vers l'Est. d'abord en train, puis en marchant, mais l'armée nazie nous a capturés, ainsi que tous les réfugiés, et nous a donné l'ordre de retourner chez nous. Je suis donc revenu à la maison au bout de 4 ou 5 semaines, et nous avons découvert que les nazis avaient confisqué tous les magasins juifs. Nous autres, les hommes juifs, il y avait beaucoup de juifs à cet endroit, nous avons été réquisitionnés pour aller travailler dans les tranchées. Nous devions combler les tranchées que nous avions creusées avant la guerre, tout juste une semaine avant la guerre, pour nous protéger des attaques aériennes. On a donné l'ordre à tous les hommes juifs de 16 à 60 ans de quitter le pays. Nous avons été emmenés en camion et par train jusqu'à la frontière soviétique. Et là, les soldats nous ont fait sortir et se sont mis à nous tirer dessus. Tous les juifs se sont mis à courir. L'un de mes amis juifs nous avait rejoints avec mon frère. Nous sommes restés ensemble jusqu'à ce que les Russes nous déportent en Sibérie en 1940. Il y avait 1 million de juifs, des réfugiés qui étaient passés de l'ouest à l'est de la Pologne. Ils ne savaient pas quoi faire de nous. Ils nous ont mis dans des trains et nous ont envoyés en Sibérie. Mais d'une certaine manière, ils nous ont sauvé la vie. Car si nous étions restés en Pologne occupée, nous n'aurions reçu aucune aide. Au bout d'une année, nous avons été libérés et nous sommes revenus de Sibérie. J'ai tenté de m'engager dans l'armée polonaise, mais je n'ai pas été pris. J'ai voulu alors m'échapper en Afghanistan avec mon frère, mais nous avons été pris à la frontière. Nous avons écopé de 2 ans de prison. Mon frère est mort au bout d'une année, mais j'ai survécu aux 22 mois de prison soviétique. Je suis allé au Brésil. Mes oncles m'avaient invité au Brésil. J'ai travaillé dans une usine. Un jeune homme qui y travaillait m'a parlé un jour de sa foi. Il m'a invité dans son église. Après quelques semaines, j'ai accepté. C'était un samedi soir. Je regardais un film et ce film sur Jésus m'est allé droit au cœur. J'ai reconnu en Jésus mon sauveur. C'était le 15 mai 1955. Comment je m'en souviens? Parce qu'il avait inscrit cette date dans la Bible portugaise qu'il m'a donnée. J'ai toujours cette Bible. Ici, dans cette maison, vous ne verrez aucune croix. Mais vous pouvez voir la mezouza sur le montant des portes. Tous ceux qui viennent chez moi savent qu'ils entrent chez une famille juive. Mais Jésus est notre Messie.
Dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus demande à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?» Éliézer donne la même réponse que Simon-Pierre « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Certaines familles juives ont dû prendre la fuite et traverser les frontières pour parvenir tout près de la liberté avant d'être reprises. Ce fut le cas de la famille Schlamm. Cependant, même dans les camps de la mort, Vera Schlamm n'a jamais perdu espoir.
Nous étions des juifs traditionnels. Nous avions l'habitude de fêter la Pâque et les grands rassemblements de famille étaient courants. 25 à 30 personnes pour Pâques ou pour les grandes fêtes comme Rosh Hashanah et Yom Kippour. Les choses ont commencé à aller vraiment mal. Même dans la rue, on en voulait aux juifs, tout spécialement aux juifs. On les battait dans la rue, on leur faisait faire toutes sortes de choses. Nous n'étions plus libres. Puis il a fallu mettre un signe sur les vitrines des magasins pour bien montrer que ce magasin appartenait à un juif et pour que les non-juifs évitent d'y acheter quoi que ce soit. Vous savez, pour qu'ils boycottent ces magasins. Mais c'était aussi une bonne cible. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de la nuit de cristal, le 10 novembre 1938. J'ai vécu cette nuit-là. À Berlin. Ma mère a tout préparé pour nous faire passer illégalement en Hollande. Ça a coûté cher, très cher. Nous avons dû prendre le train jusqu'à la dernière ville avant la frontière, et là, un homme portant un œillet à la boutonnière nous a emmenés à la frontière. En chemin, il nous a expliqué qu'il allait nous faire traverser comme un grand terrain de football où l'un des buts se trouvait du côté allemand et l'autre vers lequel nous devions courir du côté hollandais. Une fois de l'autre côté, quelqu'un viendrait à notre rencontre avec un signal, un bruit comme tchic-tchic-tchic, quelque chose comme ça. Cette personne devait nous donner des instructions précises pour savoir ce qu'il fallait dire si nous étions pris et pour qu'on ne sache pas que c'était lui qui nous avait fait traverser la frontière. Il a ajouté « Ne vous inquiétez pas, il y aura quelqu'un, c'est sûr, à 99%. » Et moi, dans cette voiture où j'étais assise, j'avais tout juste 15 ans, j'ai pensé « Le 1% qui reste, qu'est-ce qu'on en fait ?» Et bien sûr, à la frontière, personne ne nous attendait. Nous sommes restés là pendant 2 heures, les visages tournés les uns vers les autres, afin que si quelqu'un venait avec une lampe, la lumière ne se reflète pas sur nos visages. Finalement, mon père a décidé qu'il n'y avait plus de raison de rester planté là. Le jour allait se lever et nous risquions d'être pris. Alors il a compté jusqu'à 3 et nous avons couru à travers les champs. Mais un douanier allemand nous a arrêtés et conduits à la Gestapo. Je me souviens que je marchais à côté de mon père, ma mère et ma sœur nous suivaient. J'ai dit à mon père, ne t'en fais pas, Dieu va nous tirer de là. Le 20 juin 1943, ils ont encerclé le quartier et bloqué toutes les rues. Puis ils sont venus avec des haut-parleurs pour ordonner à tous les juifs de se tenir prêts. Ils ont pris tous les juifs. Et c'est à ce moment-là qu'ils nous ont envoyés à Westerbork, un camp de transit en Hollande. Et de là, nous sommes partis à Bergen-Belsen. J'aurais bien voulu aller dans la baraque où se trouvait ma mère et me cacher sous une couverture pendant 1 heure. J'avais peur sous la couverture. Mais c'était mieux que de prendre une douche. Parce que pour prendre une douche, on vous poussait dans une pièce et vous deviez vous déshabiller et les gardes vous regardaient. Puis ils vous poussaient dans une autre petite pièce où se trouvaient des douches avec juste un filet d'eau, une multitude de minces filets d'eau. Nous étions 4 sous chaque filet d'eau, tous affamés et couverts de plaies. Les corps se touchaient. J'avais chaque fois l'impression de me sentir encore plus sale en sortant. Mais j'ai continué à prier Dieu pour qu'il nous fasse sortir de cette situation. Je ne lui ai jamais fait de reproche. J'étais triste d'entendre des gens dire qu'ils avaient perdu la foi. Je me souviens qu'un jour, j'ai entendu un homme dire ça et j'ai pensé, ce n'est pas bien. Vous savez, ce n'est pas Dieu qui fait toutes ces choses. Un dimanche matin, nous sommes sortis. Ils nous ont d'abord fait sortir du camp et nous avons de nouveau dû prendre une douche. Puis ils nous ont donné à manger un repas consistant de la choucroute et des pommes de terre. La chose la plus étonnante après notre arrivée en Amérique en novembre 1947, c'est que j'ai été capable d'aller à l'université bien que je n'ai jamais été au lycée. J'ai toujours dit que j'avais laissé tomber le lycée. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais. Vous savez, jusqu'alors, toute ma vie se résumait à la persécution. Je n'avais jamais pensé au futur, je ne pensais qu'à survivre jusqu'au lendemain et je ne pensais à rien d'autre. Mais je me suis bien débrouillée et l'année suivante, je me suis retrouvée au milieu des étudiants en première année de médecine. Nous parlions beaucoup de religion. Ils me posaient des questions et moi aussi, je leur en posais. Je me suis alors rendu compte que je ne savais pas grand-chose sur ma propre foi et que je n'étais pas capable de répondre à toutes leurs questions. J'ai donc pris une décision surprenante. Je me suis dit, dès que j'aurai fini mes études et que j'aurai un peu de temps, vous savez, on nous donnait tellement de travail que nous n'avions vraiment pas de temps pour autre chose. Bref, dès que j'en aurai un peu le temps, je lirai la Bible pour voir ce que Dieu veut pour moi. Et sans rien savoir de plus, j'ai commencé à lire la Genèse, au premier verset du chapitre 1, et j'ai poursuivi ma lecture. Je suis arrivée jusqu'au prophète Ésaïe, au chapitre 7 et au verset 14. J'ai trouvé que le Seigneur lui-même donnerait un signe. Une femme vierge aura un fils qu'on appellera Emmanuel. Et ce qui est important dans ce passage, c'est que le Seigneur donnera un signe, parce que beaucoup de gens disent que ce n'était pas vraiment une femme vierge. Le mot Alma en hébreu peut aussi avoir un autre sens. Mais enfin, dans ce contexte, il signifie bien une jeune femme vierge. Je parle plusieurs langues, je sais bien qu'un mot peut avoir plusieurs sens selon le contexte. Je dis toujours aux gens qu'il n'y a rien d'étonnant pour une femme non vierge d'avoir un enfant. Je suis pédiatre et je ne serais pas pédiatre si c'était un signe vraiment spécial pour une femme d'avoir un enfant. J'ai demandé à Dieu chaque soir de me montrer si Jésus était vraiment le Messie et s'il voulait que je croie en lui. Quand je me réveillais vers 6 heures du matin, j'entendais une petite voix, non pas une voix audible, mais une petite voix en moi-même qui disait « Oui, je veux que tu croies ». Laisse tomber tes objections. Alors bien sûr, comme tous les juifs, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ma famille va dire? Comment pourrais-je leur faire ça? Que dira mon peuple tout entier et mes amis? Quelle sera leur réaction? Est-ce bien de s'aventurer ainsi en territoire ennemi? Mais Dieu m'a dit de laisser tout cela entre ses mains. Il s'en chargerait.
Vera s'est adressée à Dieu avec un cœur sincère. Elle a fini par trouver que Dieu avait tenu la promesse qu'il avait annoncée par le prophète Jérémie. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. »
J'ai été convaincu qu'il n'y en a pas d'autre. Israël n'offre plus de sacrifices. C'est une religion des œuvres. Les 613 commandements, les mitzvot, nous enseignent comment faire le bien et vivre de façon juste. On peut vivre de cette façon jusqu'à un certain point, mais cela ne donne aucune assurance pour la vie après la mort. Le Nouveau Testament, on l'a toujours dit, n'a pas été écrit pour les juifs, mais uniquement pour les non-juifs. Et pourtant, c'est bien un livre juif.
Je m'approchais de Jésus et je sentais pourtant que je ne pouvais pas croire en Jésus en tant que juif, surtout après avoir survécu à la Shoah et toutes ces choses. Comment aurais-je pu aller en territoire ennemi, n'est-ce pas? C'était ce que je pensais. Et cependant, quand j'ai lu que nous nous sommes détournés de lui, je ne pouvais pas nier que ce chapitre tout entier parlait de Jésus. J'ai pensé alors, c'est la version anglaise de la Bible que je lis, et c'est forcément ce sens-là qui s'y impose. À la synagogue que je fréquentais le vendredi suivant, j'ai pris les Écritures et j'ai lu le passage du prophète Isaïe au chapitre 53. Mais c'était le même texte. Alors j'ai pensé, comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler avant ?
Pardonner à un nazi? Comment est-ce possible? Vous ne pouvez pas. Sauf en Yeshua. Vous ne pouvez pardonner qu'à travers Jésus. Je dis souvent aux gens, soyez un peu égoïste, pardonnez et vous serez guéri. Si vous ne pardonnez pas, vous gardez en vous de l'amertume et vous restez bloqué sur votre refus de pardonner. Vous vivez dans la même prison que les gens à qui vous ne pardonnez pas. Vous êtes avec eux dans la même cellule. Mais lorsque vous pardonnez, le Seigneur vous met au large et il intervient dans la vie des gens qui vous ont blessé. Et croyez-moi, sa vengeance est bien plus rigoureuse que la vôtre.
Une chose que vous devez savoir, après avoir commencé à croire en Yeshua, toute la haine m'a quitté. Je n'avais plus de haine. Et c'est très important, car la haine peut faire des ravages. Ça peut vraiment vous détruire.
Écoutez ce que Jésus dit. Écoutez-le. Et prenez une décision. Ne rejetez pas tout en bloc uniquement, parce que c'est une philosophie différente ou une façon de penser différente. Ce n'est d'ailleurs pas si différent. Il s'agit bien de votre vie, et même de votre vie éternelle.
Et j'ai pensé à tout cela. Je n'ai pas arrêté d'y penser. Et puis je me suis dit, pourquoi? Comment pourrions-nous en vouloir à Jésus pour ce qui est arrivé à notre peuple? Ce sont des gens qui ont fait tout cela, mais Jésus, lui, était juif. Il n'a jamais voulu être quelqu'un d'autre qu'un juif.
Si je veux appartenir à Dieu et faire ce qui plaît à Dieu, je dois croire que ce qu'il me révèle est la vérité. Si le Messie qui a été annoncé dans l'Ancien Testament devait venir, et s'il s'avère que Jésus est bien le Messie, alors je dois croire en lui malgré la Shoah.
Jésus est le Messie. On ne doit pas en attendre un autre. Mais nous attendons son retour. C'est une seule et même réalité. Il est venu une première fois, et il reviendra une seconde fois. Ma femme dit souvent, s'il venait ce soir, ce serait bien.
Prenez votre Bible. Il y a 328 prophéties, de la Genèse jusqu'au prophète Malachie. Dans la Bible hébraïque, c'est de la Genèse au livre des Chroniques. Il y a tant de prophéties sur la venue du serviteur souffrant. Lisez-les, il suffit de les lire et concluez vous-même. De qui parlent tous ces textes?
Vous venez d'entendre le récit de plusieurs personnes qui ont survécu à une horreur indescriptible, un cauchemar. Et maintenant, ils sont guéris, ils ont la paix, ils ont de l'espoir. Cette guérison, cette espérance et cette paix sont aussi pour vous aujourd'hui même. Elles se trouvent en Yeshua, Jésus, le seul véritable Messie. C'est bien lui que les prophètes ont annoncé, celui que nous avons attendu, le Messie juif. Yeshua est né en Israël, à Bethléem, la ville du roi David. Sa mère était juive, et il a vécu une vie entièrement sainte. Il a souffert, et il est mort d'une manière ignoble pour racheter l'humanité du péché. Mais bien qu'il soit réellement mort, il est aussi revenu à la vie. Il est ressuscité des morts. C'est le moyen choisi par Dieu pour effacer nos fautes. En ayant foi en Jésus, en croyant en lui, en sa mort et sa résurrection, vous pouvez être pardonné de tous vos péchés. Vous pouvez recevoir l'espérance et la guérison aujourd'hui même, avec l'assurance de vivre pour toujours avec Dieu. Si vous souhaitez avoir une relation personnelle avec Dieu, grâce à Jésus le Messie, vous pouvez vous adresser à lui avec vos propres mots ou faire vôtre cette prière maintenant.
Dieu d'Abraham, je sais que j'ai péché contre toi. Je veux me détourner de mes péchés. Je crois que Yeshua a tout accompli pour me réconcilier avec toi. Par cette prière, je place ma confiance en lui, mon Sauveur et mon Seigneur. Je te remercie d'avoir ainsi effacé mes fautes et de m'avoir donné la paix et la vie éternelle. Aide-moi à te rester fidèle et à t'aimer chaque jour davantage. Amen. Si vous avez prononcé cette prière, Mazel Tov, que Dieu vous bénisse. Il vous a entendu et vous a pardonné. Il va désormais remplir votre vie de sa présence, de sa joie et son shalom, sa paix. Vous vous demandez peut-être quelle est la prochaine étape. Nous voudrions vous aider et vous mettre en contact avec d'autres juifs qui, comme vous, croient en Jésus le Messie et qui sont de plus en plus nombreux. Vous pouvez envoyer la carte réponse qui accompagne cette vidéo ou nous contacter au numéro de téléphone suivant ou bien nous écrire à cette adresse. Si vous n'êtes pas convaincu que Jésus est le Messie, mais que vous souhaitez néanmoins poursuivre le dialogue à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter au bureau Juif pour Jésus.
Magnify and sanctify his name.